Merci d'être là. Du coup, je vais essayer de vous parler rapidement de mon travail de thèse. Je suis doctorant au laboratoire SVHEP qui réunit plusieurs des doctorants qui sont ici autour de cette table, ou qui a réuni. Donc, je m'intéresse à un personnage qui s'appelle Jean Thibault, qui est un personnage lyonnais à la base, qui a vécu entre 1901 et 1960. Et du coup, au cours de mon travail doctoral, en 2012, dans cette première année de doctorat où les choses flottent un petit peu, j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Grossetti à Toulouse lors d'un colloque sur les vies savantes, et il a communiqué sur les bifurcations, et puis ça a fait son chemin, et au final je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'organiser mon corpus biographique autour de ce concept-là, et donc j'ai essayé de construire. Pour rendre plus intelligible la trajectoire de Thibault, j'ai essayé de construire, de repérer trois bifurcations et de les documenter par la suite. Voilà. Et donc, Sophie Denave en a parlé tout à l'heure, hein, mais j'entends par bifurcation une situation en partie imprévisible et qui débouche sur la création d'irréversibilité. Alors, ce sont des irréversibilités, pas au sens de la physique, hein. Quand on se marie, c'est une irréversibilité, mais on peut se démarier, on peut divorcer. Mais ça c'est caractérisé comme ça, sociologiquement. Alors, rapidement, je vais vous présenter le contexte de mon travail, de façon très très légère, donc pas ma thèse, mais l'objet de ma thèse, et puis la méthodologie que j'ai décidé d'employer. Et puis je vous présenterai, mais vraiment très très rapidement, en quelques minutes, une étude de cas qui constitue ma première cas de bifurcation. Alors, en une diapo, Thibault, c'est donc un Lyonnais qui est bachelier du lycée Ampère à Lyon, qui est licencié à la faculté des sciences de Lyon, et puis qui décide, on ne sait pas comment, d'aller faire des études d'ingénierie électrique à Paris. Il rentre à Supélec, il en sort en 21. Et là, en 21, il va intégrer l'un des deux grands laboratoires de physique nucléaire de l'époque, le laboratoire privé de Maurice de Broglie, qui est le grand frère de Louis de Broglie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la physique atomique et nucléaire. Il y avait en gros le laboratoire de Marie Curie, qui était l'Institut du Radium, et puis le laboratoire de Maurice de Broglie qui, avec la fortune qui était la sienne, avait constitué un laboratoire privé, rue Lord Byron à Paris. Et donc Thibault décide apparemment d'abandonner, je ne sais pas pourquoi, son futur métier d'ingénieur électronicien ou électrotechnicien pour faire de la recherche expérimentale en physique nucléaire. Maurice de Broglie le prend en thèse, il soutient sa thèse en juin 1925, devant Marie Curie, devant De Bierne, le découvreur de l'actinium, un élément chimique, devant Jean Perrin, futur prix Nobel de physique, et puis donc Maurice de Broglie. Il devient spécialiste des rayons X, qui était la thématique première du laboratoire de Maurice de Broglie. On devient vraiment un grand spécialiste, se balade dans toute l'Europe pour communiquer, donner des cours sur les rayons X, et puis devient sous-directeur du laboratoire des rayons X en 1928 pour orienter le laboratoire vers une physique plus nucléaire et non plus uniquement atomique. Hein. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va travailler autour des accélérateurs de particules, les premiers accélérateurs de particules dans les années 30, 31, 32. Il va construire apparemment le premier cyclotron français. Il n'aura pas les moyens de le matérialiser comme va le faire Lorentz aux États-Unis. Et puis il va participer, on y reviendra, à la matérialisation de la première antiparticule connue, qui est l'antiparticule de l'électron, le positron, avec une méthode expérimentale qu'il met au point, la méthode de la trochoïde, qui fait faire à la particule une trajectoire en spirale comme celle que vous voyez à droite. Pardon. Et puis, il va revenir à Lyon en 1935, où il va fonder le premier laboratoire de province de physique atomique, rue Rollin, pas loin des quais. Il y aura la guerre, on y reviendra peut-être. Et après la guerre, l'armée française va se tourner vers lui pour former ces cadres militaires en prévision notamment des essais de Reagan. C'était dans les tuyaux dès les années 53. Et donc l'armée va se tourner vers Jean Thibault, qui était, on va dire, plutôt classé à droite dans l'échiquier politique, sur l'échiquier politique, qui n'était pas lié au CEA, au CEA de Joliot, justement, qui lui était évidemment marqué exactement plutôt communiste. Et donc l'armée va se tourner vers Thibault pour former ses techniciens et ses ingénieurs dans l'idée de la bombe de Reagan. Et donc l'armée va doter Thibault d'un accélérateur de Cockcroft et Walton, un accélérateur qui permettait d'augmenter l'énergie des particules jusqu'à 1 million d'électronvolts à l'époque. Alors, l'accélérateur a été acheté, il venait de Suisse par la société Eiffly.
La Suisse.
Oui.
Déjà.
Haute fidélité, qui a fourni les hommes, le matériel. L'armée a payé, bien sûr, l'espace et aussi le matériel qui a été installé au fort de la Vitriolerie à Lyon. C'est maintenant le quartier Général Frère, dans un espace dédié pour Thibault, où il a pu monter un troisième cycle de physique nucléaire, le premier en France, pour former à la fois les étudiants qu'il formait lui à la recherche, et former ces fameux techniciens et ingénieurs pour l'armée, voilà, détachés. Alors, la façon dont je m'y suis pris pour réfléchir cet immense corpus documentaire, puisque je suis parti d'à peu près rien, il n'y a pas une salle de cours, il n'y a pas un amphi, il n'y a pas une rue à Lyon qui s'appelle Thibault, il y a sûrement de bonnes raisons. Et donc, en fait, il ne restait rien, si ce n'est un prix décerné par l'Académie des sciences de Lyon, que Thibault avait lui-même eu l'aigance de former par legs à l'Académie, en laissant une somme d'argent pour qu'on décerne un prix en son nom, tous les 2 ans, à un jeune chercheur, moins de 40 ans, en physique atomique et nucléaire. Et donc, depuis lors, le prix Thibault est remis, mais on va dire que c'est la seule trace mémorielle de l'activité de Thibault à Lyon. Depuis 1960, où il est mort. Et donc, pour organiser ce matériel biographique, j'ai mobilisé le concept de bifurcation de la façon suivante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par repérer les registres d'activité qui pouvaient être les siens pendant tout le cours de sa vie, en tout cas tel que je peux l'avoir documenté après 3 ans de recherche. Donc des années 20 jusqu'à la fin des années 50. Il a évidemment commencé par expérimenter. À chaque fois, j'ai repéré des verbes d'action associés. Il est devenu sous-directeur du laboratoire de rayon X, puis directeur ensuite du laboratoire de physique atomique de Lyon. Il, à partir de 1937, est devenu l'un des plus grands vulgarisateurs de la science nucléaire française, au même titre que Louis de Broglie, que Werner Heisenberg, par exemple, avec une collection Les savants du monde chez Albin Michel. Et puis, bien sûr, toute sa vie, il a été enseignant, il a enseigné la physique nucléaire, d'abord à Paris, à Louvain, et puis ensuite à Lyon, et après de façon plus légère en donnant des conférences. À partir de 1955. Ensuite, j'ai essayé de repérer les ruptures ou les évolutions entre les différents registres ou les évolutions dans un même registre au cours du temps. Et enfin, j'ai essayé de, s'il y avait bifurcation, c'est donc l'hypothèse, s'il y a bifurcation associée à l'événement que je peux repérer, c'est qu'il y a des facteurs d'émergence et puis qui peuvent l'expliquer, ou en tout cas avec lesquels la rupture peut être liée, et des irréversibilités au sens de Grossetti qui sont générées par cet événement-là. Alors, sans aller trop loin dans l'analyse, je vais juste vous présenter, effleurer la première bifurcation que j'ai repérée, à savoir l'absence de Thibault au congrès Solvay de 1933. Le congrès Solvay, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un congrès privé qui se tient à Bruxelles de façon périodique, mais il y a eu la guerre évidemment entre-temps, donc la périodicité n'est pas respectée totalement, et qui réunit les meilleurs cerveaux sur des thématiques données dans le monde pour discuter d'un sujet, soit de physique expérimentale, soit de physique théorique. Et donc, pour vous donner un petit peu un élément du contexte, historique, alors que Thibault est encore chez Maurice Debreuil à Paris, Carl Anderson matérialise une particule dont la courbure nous apprend qu'elle est positive, et à l'époque nous ne connaissions que le proton comme particule positive, dont le rayon de courbure de la trajectoire nous indique quelle est son énergie, et donc on peut voir qu'elle en a perdu, elle est passée de 63 millions d'électrons volts à 23. Et donc on peut, par une physique relativement simple, en déduire sa masse, ou un ordre d'idée de sa masse, en tout cas pas sa masse, mais le rapport entre la masse et la charge de la particule, qu'on appelle la charge spécifique de la particule. Et donc Anderson donne dans son papier de 1932 et en mars 1933 une indication relativement vague. Et donc Thibault va être le premier, avec sa méthode de la trochoïde, qu'il met au point spécifiquement pour cette étude-là. Il va arriver à préciser de façon beaucoup plus fine le rapport E sur M de cette nouvelle particule. S'il fallait la caractériser comme une antiparticule, il fallait qu'elle ait un rapport charge sur masse symétrique de celle de l'électron, évidemment. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il parvient à faire. Et donc, Anderson le cite en première référence lors de son discours Nobel en 1936. Et la deuxième chose que fait Thibault en 1934, c'est qu'il il va matérialiser une prédiction théorique faite par Dirac quelques années auparavant, qui doit être propre à la rencontre entre une antiparticule et une particule. Lorsqu'une antiparticule rencontre une particule, elle se marie et ça fait une jolie lumière. C'est ce qu'on appelle un processus d'annihilation, particule-antiparticule, et Thibault va être de façon exactement synchrone avec Frédéric Joliot, le premier à communiquer et à expérimenter et à voir ce phénomène d'annihilation particule-antiparticule. Et donc malgré ça, sa candidature est rejetée au 7e congrès de Solvay. Il s'en plaint dans une lettre que j'ai retrouvée aux archives de l'École de physique et chimie de la ville de Paris, le SPCI, lettre qui est en dessous. Il s'en plaint à Paul Langevin, que vous voyez ici. Alors, la petite zette, elle est là, tu sais comment.
Non, attends, je vais te dire comment ça marche.
Paul Langevin. C'est pas un souci sinon. Merci. Ah, c'est parfait. Merci. Paul Langevin, c'est lui. Paul Langevin était l'un des... Il y avait en gros les deux pères de la physique française. Hein. Paul Langevin et puis Jean Perrin. Mais Maurice Debreuil un petit peu à côté. Et donc Langevin était secrétaire du Conseil Solvay. Langevin était un grand ami d'Einstein. Une immense notoriété dans la physique des années 20. Et puis avec Maurice Debreuil, le patron de thèse de Thibault, il dirige le Conseil Solvay, le 7e Conseil Solvay du 22 au 29 octobre 1933. Et donc Thibault a une candidature qui est rejetée, et ils sont plaints donc à Paul Langevin dans cette lettre-là. Alors, du coup, j'ai voulu constituer cet événement comme une rupture suffisante pour être une bifurcation. Et du coup, si c'est le cas, je dois pouvoir repérer des facteurs émergents et repérer des irréversibilités par la suite. Alors, ça me permet justement de regarder mon corpus par ce prisme-là, et c'est en ça qu'il le rend plus intelligible pour moi et intéressant pour le coup. C'est que, en fouillant un petit peu les rapports entre les différents laboratoires, on s'aperçoit qu'en fait, à Paris... il y a un clivage extrêmement, extrêmement puissant dans les années 20 et surtout au début des années 30 entre le laboratoire du radium, l'Institut du radium, qui est un laboratoire public dirigé par Marie Curie et qui tourne autour de la figure de Joliot, de Marie Curie, de Pierre Curie qui va décéder rapidement, mais aussi de Jean Perrin. Et donc ce sont des gens qui se retrouvent tous au même endroit pour des séminaires avec les gens de l'École normale supérieure qui sont des antifascistes. Et qui vont d'ailleurs se retrouver à partir de 1932-33 autour du CVIA, du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui va donc les réunir au-delà de leurs affinités, au-delà de leurs affinités disciplinaires. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout le cas du laboratoire privé de Maurice de Broglie, qui a une tradition plutôt catholique, pas du tout antifasciste, en tout cas pas déclarée, pas ouvertement antisémite, hein, j'ai rien trouvé dans ce sens-là, mais en tout cas, il y a une rupture idéologique très nette entre ces deux types de laboratoires. Et donc, pour moi, ça constitue clairement un facteur de rupture dans l'acceptation de Thibault, puisque globalement, Joliot, qui a fini par être, puis il y avait aussi l'animosité personnelle entre Joliot et Thibault. Joliot est accepté comme communicant lors de ce fameux congrès, et pas Thibault. Alors que j'ai retrouvé dans les archives de l'ESPCI, parce que justement Langevin en est le secrétaire, j'ai retrouvé les actes préparatoires, et Thibault est sur la liste courte des participants au congrès, et il est rayé à un moment donné, pour des raisons que j'ignore. Voilà. Alors, du coup, s'il y a véritablement rupture, c'est qu'il y a aussi réversibilité. Et pour moi, j'en vois trois pour le coup, dans les années qui suivent. D'abord, le fait que Thibault décide de rompre avec Paris, et de se tourner vers sa fac d'origine, et de proposer ses services à la Faculté des sciences pour monter un laboratoire de physique atomique, le premier en province. Il obtient des crédits pour cela. Il est d'abord rattaché à une chaire de physique expérimentale pour ensuite créer ce fameux laboratoire Rue Rollin de physique atomique. Il arrive à rivaliser avec les laboratoires parisiens en rassemblant autour de lui une bonne dizaine de collaborateurs qui vont travailler à un niveau relativement honnête. Hein, ça se mesure de façon quantitative sur le nombre de publications et la catégorie des publications. Il va rivaliser avec les laboratoires parisiens en 1935 à 1939. Et puis en 1937, autre irréversibilité pour moi, il décide de changer de registre et de se placer sur le registre de la vulgarisation en publiant un livre qui va être beaucoup lu, qui s'appelle « Vie et transmutation des atomes » et qui sera son premier livre de vulgarisation. Voilà. Et donc ce changement de registre, le fait qu'il soit passé, qu'il ait quitté uniquement les interactions entre pairs et qu'il trouve le besoin d'interagir, ou en tout cas de se poser comme un savant qui réfléchit le monde, pour moi c'est significatif d'une irréversibilité et c'est lié à cette rupture de 1933. Et puis la troisième irréversibilité, c'est qu'il devient un notable lyonnais en étant élu à l'Académie des Arts, Sciences et Belles-Lettres de Lyon en 1938. Alors pour pas m'étendre plus longtemps, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est que, alors comme le dit Henri Laborie, l'événement c'est ce qui advient à ce qui est advenu. C'est donc la possibilité de reconstruire pour rendre plus intelligible justement un parcours biographique. C'est de l'ordre de la construction, pas de la révélation, mais ça me permet de relire différemment un corpus que j'avais pu accumuler. Et puis ça m'aide effectivement à penser chacun de ces événements de façon un petit peu plus critique. Alors, de façon ouverte, les questions qui sont encore les miennes sont peut-être celles de la dynamique, pardon, de ces bifurcations. Est-ce qu'une bifurcation, ça se propage ou pas? Et du coup, quelles interactions elles peuvent engager les unes par rapport aux autres? Voilà. Merci beaucoup.